grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. L'homéopathie n'est-elle qu'un simple effet placebo? C'est la question que nous posons ce matin. Attaquée par de nombreux médecins et scientifiques, l'homéopathie reste encore une pratique controversée, considérée par certains comme une thérapeutique ésotérique, sans aucun fondement scientifique, nourrie par des charlatans et basée sur des croyances et non sur des faits. Pour preuve, une tribune retentissante signée en mars 2018 par 124 médecins qui demandent son déremboursement, faute de preuves scientifique avérée sur son efficacité. Mais comment prouver cette pratique imaginée en 1790 par Samuel Hahnemann? Et pourquoi cette thérapeutique décriée séduit-elle près de 5000 médecins en France et selon des enquêtes d'opinion, 70% des Français? Sur quels piliers repose la médecine homéopathique? Quels sont ses grands principes? Existe-t-il des éléments tangibles montrant son efficacité dans certaines pathologies? Comment se passe une consultation? Et quid bien sûr de l'effet placebo? Élément de réponse ce matin avec la médecin homéopathe Chantal Chemla Boukara, le médecin généraliste et blogueur Dominique Dupagne, le psychiatre Patrick Lemoine, le pharmacologue François Chaste et avec la journaliste Magali Cotard qui signe un très bon doc ce soir dans l'émission Enquête de Santé sur France 5, notre partenaire ce matin. Question-réaction, témoignage au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Vous êtes un philosophe concerné par notre sujet ce matin ?
Concerné à plus d'un titre, oui. J'ai moi-même utilisé beaucoup d'homéopathie à un moment. J'ai été passionné par la question des terrains. Bon, je suis un terrain sulfure, paraît-il. J'aime bien sulfure, sulfureux, ça me parle. Et après, j'en suis revenu, on va en parler.
Dans vos choses vues tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Pour la première fois, des médecins se sont unis pour dénoncer l'homéopathie. Dans une tribune, ils l'accusent d'être inefficace et ésotérique.
La question de l'efficacité de l'homéopathie, en vérité, elle ne se pose pas. L'efficacité de l'homéopathie, elle n'existe pas.
Est-ce que les granules contiennent un principe actif? La plupart, non. Donc ce que vous prenez, c'est des petits granules de sucre, quoi.
Pour moi, l'homéopathie, c'est, ça n'a pas plus de fondement que, je sais pas, autre chose, quoi, que de la magie.
Cette magie n'a pourtant jamais autant séduit les Français. Ils sont plus de 70% à l'avoir déjà testée. C'est 20% de plus qu'il y a 5 ans.
La preuve scientifique, en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas fondamental, quoi. Ce qui compte, c'est que ça marche, en fait.
Extrait de l'excellent documentaire de Magali Cotard ce soir sur France 5. L'homéopathie n'est-elle qu'un simple effet placebo? C'est l'une des questions que nous aborderons ce matin. Bienvenue à nos invités, docteur Chantal Chemla Boukara. Vous êtes médecin homéopathe. Qu'est-ce que l'homéopathie selon la définition de la Société savante d'homéopathie?
Selon la définition de la Société savante d'homéopathie.
Ou la vôtre.
Ou la mienne. Voilà, qui se rejoignent de toute façon. L'homéopathie, c'est une approche et une médecine qui va prendre en compte la totalité de la personne, la façon dont la personne fait sa maladie, la façon dont elle l'exprime, et qui va trouver des solutions adaptées, spécifiques à chaque patient. Donc l'homéopathie, pourquoi est-ce que l'homéopathie a tant de succès? De plus en plus de patients viennent à l'homéopathie. On dit que on sait que 70% à peu près des Français ont besoin d'homéopathie, ou en tout cas ils viennent, demandent de l'homéopathie. Ils ont besoin d'une médecine qui est dénuée d'effets toxiques. Moi, je peux témoigner ici de ma pratique, de ce que je vois. Et des résultats que j'en ai. Je ne suis pas une scientifique, vous m'avez appelée hier, hein. Je vais faire de mon mieux. Mais il y a énormément d'études scientifiques qui permettent aussi de montrer qu'il y a une efficacité de l'homéopathie. Simplement, il y a une spécificité de l'approche homéopathique qu'il faut respecter.
C'est une thérapeutique née en Saxe, en Allemagne. En 1790, Christian Hahnemann note la similitude entre les symptômes provoqués par l'ingestion de quinquina et les guérisons obtenues par cette plante. Cette loi de similitude rappelle la loi des semblables que l'on attribue à Hippocrate, hein, les mêmes choses qui ont causé le mal le guérissent. Et à partir des expérimentations sur lui et sur ses patients, Hahnemann fonde l'homéopathie, qui veut dire médecine des semblables. L'homéopathie qui s'oppose à l'allopathie. Professeur François Chaste, vous avez publié un ouvrage, Les médicaments en sont question. On oppose traditionnellement les médecines allopathiques et homéopathiques, avec l'idée que les deux médecines seraient équivalentes.
Oui, alors, ce qui est très difficile, c'est qu'avec l'homéopathie, on n'est pas dans une démarche scientifique, on se réfère toujours à un dogme qui a été établi il y a plus de deux siècles, hein, Samuel Hahnemann, vous l'avez cité, fondé sur le principe des similitudes, sur le principe des dilutions infinitésimales, c'est-à-dire qu'au bout du compte, dans le médicament, comme ça a été dit dans le reportage, il n'y a plus rien. Sur le principe de dynamisation, c'est-à-dire que comme il n'y a plus rien, on agite les préparations, c'est ce que les homéopathes appellent la dynamisation. C'est une notion que la physico-chimie n'explique pas, au plan moléculaire, au plan des vibrations, au plan de tout ce que l'on peut imaginer en termes physiques ou chimiques. Et puis il y a un quatrième pilier de l'homéopathie, comme le docteur Chemla l'a évoqué, et là, je veux bien la rejoindre très volontiers, c'est le principe de personnalisation. Parce qu'effectivement, un malade, c'est un terrain, c'est une personne humaine qui n'est pas seulement composée de sa maladie et de sa physiologie, mais d'un ensemble de situations, de phénomènes psychologiques, physiologiques, identitaires, liés à ses origines, son extraction familiale, ses origines sociales. Et il faut en tenir compte quand on fait de la médecine, et c'est ce que tous les médecins devraient faire. C'est d'ailleurs ce que un psychologue de la médecine, Balint, a essayé d'imposer il y a une soixantaine d'années par des pratiques collégiales de l'organisation de la consultation médicale. Et au fond, ce que l'on reproche, nous les scientifiques, excusez-moi Madame Chemla, à l'homéopathie, c'est de tenter de justifier cette approche légitime de la personnalisation par le fait que derrière l'homéopathie, il n'y a rien sur le plan pharmacologique, chimique, physique, physiologique. Il n'y a rien.
Alors l'homéopathie est attaquée de toutes parts, hein. On va essayer de comprendre pourquoi. Dominique Dupan, vous êtes médecin, blogueur, chroniqueur dans La Tête au Carré de notre camarade de Mathieu Vidard. Pourquoi n'avez-vous pas signé la tribune publiée en mars 2018 dans Le Figaro par le collectif Fake Médecine, qui a rassemblé 124 de vos confrères et qui demande le déremboursement de cette thérapeutique?
Je la trouvais trop fermée, trop agressive.
Arrogante peut-être.
Je sais pas si j'irais jusqu'à ce mot-là, mais en tout cas c'était brutal. C'était très brutal. On a entendu dire par un de ses signataires dans l'excellent documentaire que je conseille à tous les auditeurs de regarder ce soir parce qu'il est vraiment remarquable. Ça ne marche pas, bien sûr que si ça marche l'homéopathie, sinon les gens ne feraient pas d'homéopathie. La question c'est de savoir si ça marche à cause des granules ou à cause de la pratique qui l'entoure. Et c'est là qu'est la vraie question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu gêné par la question qui est l'homéopathie est-elle un placebo? Parce que si on y répondait par oui ou par non, ça serait une catastrophe dans les deux cas. Moi, j'étais très marqué quand j'étais jeune médecin par une journaliste qui est venue me voir. J'étais un jeune blanc-bec qui essayait de faire sa clientèle, qui se poussait du collègue son nœud papillon. Et elle me dit, la vitamine C était remboursée à l'époque, que prescrivez-moi mes 2 grammes de vitamine C parce que si je ne les prends pas le matin, je ne peux pas travailler. Donc je lui dis, mais pas du tout, mais enfin madame, il n'y a pas d'effet stimulant pour la vitamine C. Et elle me dit, mais si. Et comme elle m'avait un petit peu vexé, je lui ai envoyé des publications scientifiques qui montraient que la vitamine C ne stimulait rien du tout. Et je la revois 6 mois après, et elle me dit « Docteur, vous êtes un imbécile. » Pourquoi ? Parce que j'ai lu vos articles, et maintenant la vitamine C ne me fait plus rien. Je fais quoi maintenant ? Et donc, ça a été une sorte de leçon, parce que je lui avais cassé sa magie. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des diplômes d'État d'homéopathie, que ça soit enseigné à la faculté, qu'il y ait une espèce de caution scientifique autour de l'homéopathie, mais en tant que pratique, sachant que c'est fait par des médecins diplômés qui sont capables de ne pas passer à côté de maladies graves et de prescrire de l'allopathie si nécessaire, même s'il y a toujours des dérapages et des abus, ça me semble, comme à d'autres, avoir une place dans l'arsenal thérapeutique et ça pose la question de la place du placebo dans le soin.
Patrick Lemoine, on reviendra avec vous sur l'éventuel effet placebo de l'homéopathie. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Comment jugez-vous la démarche de vos 124 confrères du collectif Fake médecine comme fausse médecine.
Mmh. Moi, je suis assez scandalisé par le ton et la forme de cette tribune qui a quand même traité des confrères qui ont prêté comme eux le serment d'Hippocrate et les ont traités de charlatans et ont proposé même de les traîner devant les tribunaux. Donc, ne serait-ce que sur la forme, j'ai été horrifié Et j'avais donc écrit immédiatement une contre-tribune que j'ai soumise au Figaro, qui a refusé de la passer. J'étais également très en colère. Donc j'avoue que sur la forme de cette tribune, ça le fait pas.
Magali Cotard, vous signez donc le documentaire Homéopathie, demain la fin. Alors vous mettez en scène deux camps qui paraissent irréconciliables, hein, ou presque, le camp de la médecine par la preuve et le camp des pratiques qui laissent la place à l'inexplicable. Et vous avez donc rencontré des Français représentatifs de ces 70% qui ont eu recours un jour à l'homéopathie.
Oui, ils sont nombreux ces Français et souvent ils nous reprochent de pas les entendre. Et effectivement, c'est très compliqué de réconcilier ces deux camps parce que quand ils me le disent tous, quand vous avez ressenti dans votre propre corps une guérison qui n'est selon vous imputable qu'à l'homéopathie, que pendant des dizaines d'années vous avez essayé autre chose, comme des médicaments contre les allergies ou des choses comme ça, et que seule l'homéopathie arrive à vous guérir, forcément que dans ces cas-là, on est persuadé que l'homéopathie agit. Après, effectivement, on écoute les enfin c'est même pas deux camps. Moi, j'essaye de réunir toutes les informations, on va dire ça comme ça, parce que par contre, ce que je trouve de mon côté inacceptable, c'est qu'on fait croire aux gens en appelant ces médicaments des médicaments et en les remboursant qu'ils ont une réelle efficacité. Et l'homéopathie s'appuie là-dessus. Elle dénigre beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, mais d'un côté, elle joue aussi ce jeu-là. Et moi, j'ai juste voulu expliquer aux gens, dire vous faites ce que vous voulez si ça vous guérit, mais en tout cas, il n'y a rien dedans. La preuve, la science n'a rien démontré.
Patrick Lomone.
Un tout petit mot sur les deux camps. Oui, vous voyez, je suis professeur associé à Pékin. En Chine, il y a deux médecines officielles qui durent 7 ans, sanctionnées par un diplôme d'État, médecine chinoise, médecine occidentale. La médecine chinoise, je la comparerais un peu à l'homéopathie, c'est-à-dire ça repose sur une théorie non validée scientifiquement. Ah, ça fait 2500...
Je m'inscris en faux. Non, François Chaste, je suis désolé. Non,
la théorie des cinq éléments, je suis désolé.
Non, mais la médecine chinoise, que je connais un petit peu, elle est fondée sur l'utilisation de plantes qui, pour beaucoup d'entre elles, sont actives et sont d'ailleurs utilisées dans la médecine occidentale pour extraire des principes actifs, oui, qui sont connus.
Je voudrais juste terminer mon raisonnement. L'acupuncture n'a pas de grosse validation. Les méridiens,
si, bien sûr,
les méridiens
si,
n'ont
bien
pas
sûr
été démontrés physiquement. Physiquement, ben non, c'est pas une preuve. Physiquement, les méridiens, on les a pas vus. Personne ne les a vus. Bref, je voudrais juste terminer de dire
qu'il y a des éléments cliniques qui démontrent une efficacité de l'acupuncture.
Laissez-moi finir mon raisonnement.
Oui,
parce qu'en fait, on va dans le même sens. Je veux simplement dire qu'il y a deux médecines qui n'ont pas du tout les mêmes fondements, que la médecine occidentale ne valide pas vraiment la médecine non fondée sur la preuve chinoise, et que pourtant, non seulement elles cohabitent, il y a des hôpitaux chinois, des hôpitaux occidentaux, ils s'envoient de l'un à l'autre, et dans les services occidentaux où je travaille, eh bien on a une équipe chinoise qui vient travailler.
Dominique Dupagne.
C'est le débat. Est-ce qu'il faut vraiment chercher de la preuve? C'est ça la question.
Oui,
est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on cherche de la preuve dans la religion? Est-ce qu'on cherche à savoir chez les chrétiens si le corps du Christ est dans l'hostie ou est-ce que le vin est le sang du Christ?
Mais c'est la messe n'est pas remboursée.
Pardon, c'est
la
pour
messe
ça.
N'est pas remboursée.
C'est ce que je disais, le débat, c'est diplôme universitaire ou pas, enseignement, reconnaissance et remboursement.
Magali Cotard.
Il y a un des intervenants du documentaire qui m'avait dit en off qu'avant de savoir comment le Père Noël fait pour réussir à emmener les cadeaux en une nuit partout, faut peut-être se demander si le Père Noël existe. Et là, la réalité, elle est là. Est-ce que l'homéopathie marche mieux ou pas qu'un placebo? Et ça, on n'a pas réussi à le démontrer avant de savoir s'il y a une cause physique inconnue au fonctionnement de l'homéopathie.
Bien sûr qu'on l'a démontré. Simplement, il faut lire les études. Il y a une étude. Je vais vous donner des documentations. Il y a une étude qui compare placebo et homéopathie dans la dépression. Ou bien homéopathie et contre Prozac dans la dépression, avec des effets positifs. D'autre part, il y a l'interprétation des études qui sont faites. Alors, je ne suis pas scientifique, mais malgré tout, prenez l'étude qui a été faite en Suisse, qui a duré 5 ans et qui a montré qu'effectivement l'homéopathie était efficace, sûre, de moindre coût et qui a conduit à la prise de décision par les Suisses de rembourser les consultations homéopathiques et les médicaments homéopathiques. D'autre part, je voudrais juste continuer.
Réponse quand même de Dominique Dupagne et de Magali Cotard.
Sur l'aspect scientifique, on sait qu'il y a au moins 30% des études publiées, que ça soit en homéopathie ou en allopathie, qui ne sont pas de la vraie science. Bon, et donc il peut y avoir des débats où on s'envoie des études à la figure. Sans fin, ça noie les auditeurs, ça n'a aucun intérêt. Il y a un consensus scientifique extrêmement fort, y compris de gens qui sont, on va dire, bienveillants vis-à-vis de l'homéopathie, pour dire qu'il n'y a pas d'études rigoureusement menées qui montrent que le granule a un effet supérieur au placebo.
Et on est tous d'accord pour dire qu'on ne serait pas là si l'homéopathie avait fait la preuve de son efficacité. On ne serait pas du tout autour de cette table pour en parler. Et juste, la Suisse, effectivement, c'est par un référendum et un vote qu'on a
après
décidé de rembourser.
Après une étude de 5 ans.
Allez, dites-nous si pour vous l'homéopathie n'est qu'un simple effet placebo. 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Un mot pour vous remercier chaleureusement. Vous êtes 1 212 000 à écouter Grand Bien Vous Fasse chaque matin, plus 231 000 auditeurs en un an. Bravo à l'équipe de l'émission, aux chroniqueurs et à vous qui nous écoutez chaque jour. Merci pour votre fidélité. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot. À la réalisation, Stéphanie Texier. Paint in black.
Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe une heure avec chaque client, hein. Une heure.
Grand bien vous fasse.
12 personnes au lieu de 65, vous n'avez qu'à faire le compte.
Sur France Inter.
10h25 et on se demande si l'homéopathie n'est qu'un simple effet placebo. Question, témoignage au 01 45 24 7000.
J'ai accouché avec une péridurale homéopathique. Donc à un moment donné, moi, j'ai pas souffert de mon accouchement. Alors peut-être que je suis un ovni, mais j'avais pas de péridurale. J'ai pris que des granules et ça s'est très bien passé. Je n'aurais pas imaginé le faire sans homéopathie, quoi. Mais comment on pourrait me montrer que ça marche pas? En fait, c'est ça la question. Est-ce que je pourrais me dire, ça fait 10 ans que je me soigne avec ça, que je suis pas malade, mais ça marche pas? Je dirais, écoute, tant mieux si ça marche pas, mais sur nous, ça marche. Non, c'est vrai. Enfin, à un moment donné, faut. Dans ce cas-là, on aurait, ça serait que du psychologique. Ce serait fort quand même.
Extrait du documentaire Homéopathie, bientôt la fin de Magali Cotard. Dominique Dupane, je rappelle que vous êtes médecin et blogueur. Vous avez envie de réagir à quelque chose. Non, vous avez dit hors antenne, il y a une question fondamentale.
Faut-il priver ou pas les gens de la possibilité de se soigner par l'homéopathie, au-delà du remboursement, au-delà des granules? Mais pour ce témoignage très précis, l'allopathie, pendant des années, on a soigné l'angine de poitrine en bouchant, en prenant une artère qui était à l'intérieur du thorax, l'artère mammaire. Les gens guérissaient, ils allaient beaucoup mieux, les cardiologues étaient contents. Et puis un jour, il y a un médecin qui trouvait ça bizarre et qui a juste fendu la peau et qui a recousu sans ouvrir. Et il a obtenu exactement les mêmes résultats qu'avant et on a arrêté de faire cette opération. Donc, l'effet placebo, ça peut jouer dans tous les domaines, dans la cardiologie, pour des maladies graves. Il ne faut pas croire que ça se résume à des bricoles. Il y a des maladies graves sur lesquelles l'effet placebo est très puissant.
Et même quand on faisait des saignées, les saignées, c'était pareil.
Ça pouvait être efficace dans des maladies cardiaques où c'était spectaculaire et du coup, on les a étendues à tort à d'autres maladies où ça ne servait à rien.
Oui, mais ça marchait.
Mais dans l'œdème pulmonaire, c'est une saignée, c'est comme si vous traitiez actuellement un patient en réanimation, d'un seul coup, il va mieux. Mais c'était la seule maladie où ça marchait.
Mais je veux dire, ça a été élargi, et comme les gens y croyaient, ça marchait.
Mais comme les clistères, donc c'était pareil.
François Chaste, professeur en pharmacologie.
Oui, effectivement, y compris dans l'hypertension artérielle, on a de bons résultats, de l'ordre de 30 à 40% de malades qui sont très efficacement traités par un placebo. Mais là où ça devient problématique, l'homéopathie, c'est quand les homéopathes prétendent s'attaquer à des maladies qui peuvent mettre en danger la vie des patients. J'ai sous les yeux ce que le site Homéopathes sans frontières propose à ses patients, je mets entre guillemets, pour la prévention et le traitement du paludisme. Et il est écrit « Dans le traitement du paludisme grave, où les défaillances multiviscérales sont susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital à brève échéance, le traitement homéopathique a toute sa place. » Alors, quand on sait les ravages que l'homéopathie fait en Afrique, notamment, dans le domaine...
Le paludisme.
Et du fait du paludisme, on se demande pourquoi il n'y a pas d'action de justice faites contre des gens qui proposent de l'homéopathie dans le traitement ou la prévention du paludisme. On a eu au CHU de Nice, il y a quelques années d'ailleurs, une patiente qui avait été traitée de manière préventive avant d'aller séjourner en Afrique avec un médicament homéopathique pour prévention du paludisme, qui est revenu en réanimation, qui a fait 2 mois de réanimation au CHU de Nice. Donc il faut faire très attention, il y a des dangers à l'égard de ces maladies sévères. Et ce que reprochent les médecins aujourd'hui, ceux notamment qui ont signé cette tribune, c'est le retard du recours à des soins dans des maladies graves. Et ça, il faut mettre en alerte les patients. Il y a des symptômes qui doivent alerter. Et passer à l'homéopathie, ne serait-ce que pendant quelques mois, peut retarder un diagnostic et rendre la maladie irréversible, voire mortelle.
Réponse du docteur Chantal Chemla-Boukara, médecin homéopathe.
Justement, c'est parce que nous sommes médecins, d'abord, et que nous avons fait cette année de médecine, et puis ensuite que nous avons fait une spécialisation avec de nombreuses années d'homéopathie, que nous sommes capables de définir le cadre du traitement homéopathique. Faut-il passer à l'homéopathie tout de suite? Faut-il d'abord passer à l'allopathie? Faut-il utiliser les deux? Excusez-moi, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu, vous plaît. Donc, je crois qu'il faut comprendre cela. D'autre part, vous parliez du paludisme. Bon, il faut voir aussi les conditions en Afrique. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens économiques pour se traiter autrement?
Ça, vous êtes favorable à une médecine à deux vitesses?
Non, je suis favorable à une médecine ancrée dans la réalité.
Voilà. La réalité, c'est
donc,
le traitement efficace.
Si effectivement il n'y a pas de moyens pour se traiter avec les moyens habituels, l'homéopathie peut rendre d'énormes services. Sachez qu'en Inde, où effectivement il y a un ministère de l'homéopathie et où des millions de personnes se traitent comme ça, où ils n'ont pas forcément les mêmes moyens économiques que nous, eh bien ils utilisent l'homéopathie pour des maladies graves. Et ils publient là-dessus. En France, on a un cadre. Et on le respecte en tant que médecin. Je crois que ça, c'est très important à comprendre. Mais devant la résistance aux antibiotiques, on nous bassine avec ça. On sait le nombre de morts qu'il va y avoir dans 3 ans par rapport aux gens qui ne réagissent plus aux antibiotiques. Devant la toxicité, les effets secondaires des médicaments. Quand on a une solution qui marche et qui est efficace, peu importe, on appelle ça placebo, effet placebo, mais On appelle placebo tant qu'on ne comprend pas.
Mais soyez clair, docteur Chemla Boukhara, on ne peut pas soigner l'homéopathie, on ne peut pas soigner le cancer avec l'homéopathie,
mais
des choses comme ça.
Mais on ne peut pas être... Mais non, monsieur, d'accord. Ce n'est pas ce que je dis,
d'accord.
Monsieur.
D'accord.
On voit dans notre cabinet...
Mais en Afrique, on pourrait soigner le paludisme.
Je suis en train... Il vient de m'être posé une question. Nous voyons énormément... Il y a énormément de patients dans nos cabinets qui viennent avec des cancers. Il est évident qu'on leur conseille de suivre la médecine conventionnelle et qu'on vient en complémentarité, en association avec ces
Dominique
traitements.
Dupagne.
Non seulement pour diminuer la toxicité des remèdes,
Dominique Dupagne.
Non mais Madame Chemla a raison, l'essentiel de l'homéopathie prescrite dans les maladies graves est en appoint. Dans ce qu'a lu Monsieur Chaste, on ne lit pas forcément que l'homéopathie est le traitement exclusif. Alors, on peut avoir un traitement, il y a beaucoup de cancérologues qui disent à leurs patients, écoutez, essayez l'homéopathie, l'acupuncture. Je ne sais pas si c'est valide, il y a des études qui montrent que finalement ça renchérit les coûts. Mais en tout cas, en traitement adjuvant, c'est jamais contesté. Il y a les dérapages, c'est-à-dire les gens qui prétendent guérir un cancer, guérir un paludisme exclusivement avec de l'homéopathie. Ils sont très peu nombreux, parce qu'en effet, on a la chance que l'homéopathie en France soit pratiquée par des médecins, et c'est une sécurité qu'il ne faut pas négliger. Mais évidemment, l'argument, si on n'a rien d'autre, si rien n'est disponible, donner l'homéopathie, je suis pas sûr que c'est pas donné l'homéopathie en Afrique non plus. Donc par rapport à de la quinine ou à de la nivaquine, je suis pas sûr que ça soit moins cher.
Patrick Lemoine.
Oui, une placebo-thérapie n'est acceptable que si la maladie n'est pas grave, n'est pas évolutive. De même, s'il y a un traitement efficace démontré, c'est pas acceptable. Et le placebo n'est pas acceptable s'il est dangereux. Par exemple, la sténose chirurgicale de l'artère mammaire interne dans l'angine de poitrine n'était pas acceptable parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont morts sur la table d'opération. Donc, ce que je pense très profondément, c'est que les homéopathes sont ceux qui ont le mieux optimisé l'effet placebo, et c'est tout à leur honneur, parce que c'est des médecins qui font un vrai diagnostic, un vrai pronostic, et s'ils se cantonnent aux maladies fonctionnelles auxquelles la médecine classique ne fait que du mal, vous voyez, moi je suis un spécialiste du sommeil, eh bien je vois tous les jours des gens qui font des infarctus, des AVC, des maladies d'Alzheimer, juste parce que le médecin a prescrit un somnifère sans poser la question du ronflement. Est-ce eux qu'il faut traiter de charlatans et envoyer devant les tribunaux ?
Patrick Lemoine, vous pouvez rappeler ce qu'est exactement l'effet placebo ?
L'effet placebo, c'est l'écart constaté entre l'efficacité attendue d'un médicament. J'ai mal aux dents, on me donne de l'aspirine, ça agit normalement en 20 minutes pour 4 heures. L'effet placebo, il va agir en 5 minutes, ça va durer toute la journée. Et l'effet nocebo, il va pas agir et puis ça va me faire mal au ventre.
L'effet nocebo,
c'est l'écart négatif entre l'effet scientifiquement attendu et l'effet constaté.
Magali Cotard.
Et ce qui est intéressant concernant l'homéopathie, c'est qu'elle entraîne un effet placebo qui est majeur. Il y a une étude qui était hyper intéressante qui a été faite au CHU de Lyon sur des patients en cancérologie, sur les nausées et les vomissements. Et cette étude avec un médicament homéopathique a montré des résultats qui n'avaient jamais été obtenus pour aucun autre médicament. Donc on s'est dit, ça y est, l'homéopathie agit. Sauf que dans cette étude, la branche placebo a eu les mêmes résultats. Ça veut vraiment dire que la confiance dans l'homéopathie est énorme. Après, la question, c'est est-ce que si les gens savent que c'est un placebo, est-ce que cette magie, comme disait M. Dupagne tout à l'heure, va se casser ? Alors moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, M. Lemoine, mais il y a un intervenant, M. Benedetti, qui est spécialiste du placebo, qui me disait, même si on sait que c'est un placebo, ça peut marcher. Regardez, oui. Vous voyez un film d'horreur, vous savez que tout est faux, et malgré tout, vous avez des sueurs et des tremblements, vous avez quand même peur. Donc ça peut quand même marcher, et ça, c'est intéressant.
Le professeur Benedetti de l'Université de Turin.
Ouais. Ouais. Quand j'ai publié Le mystère du placebo, qui avait fait un gros buzz à l'époque, chez Odile Jacob, eh bien, les gens l'avaient lu, mes patients l'avait lu. Puis de temps en temps, je prescrivais du magnésium. Et les gens me disaient, mais c'est pas un placebo dans votre livre ? Ben si, et ça marchait tout aussi bien.
Bonjour Agnès, bienvenue. Vous appelez de
oui,
Kessargue,
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour France Inter.
Bonjour Agnès.
Oui.
Alors, nous vous écoutons.
Voilà, écoutez. Alors, je voulais faire part de mon expérience. Ça fait 40 ans que je me soigne par homéopathie. J'ai fait des études infirmières et j'ai eu la possibilité de participer à des cours d'une école allemandienne à laquelle étaient présents des médecins et des infirmiers. Donc moi, je ne connaissais pas du tout l'homéopathie.
Allemagne, voilà, en référence à Samuel Hahnemann. Hein. Voilà.
Tout à fait. J'ai eu des enfants, et donc tout le temps malade, des antibiotiques, donc j'en avais assez des antibiotiques. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer l'homéopathie. Donc, j'étais complètement séduite par l'homéopathie, qui a donné des résultats surprenants. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'homéopathie, c'est que le médecin attache de l'importance au terrain. Ce qui est important aussi en homéopathie, c'est que le symptôme doit être traité dès le début. Mais Je pense qu'il faut pratiquer une homéopathie intelligente et pas sectaire, à savoir un tableau qui ne passe pas en 48 heures. Mmh. On a recours, bien évidemment, à l'allopathie. À mon sens, l'homéopathie n'est pas du tout un placebo, parce que quand vous donnez une granule à un bébé ou à un animal et que la réponse est positive, je pense qu'on ne doit pas parler de placebo. Voilà, donc je suis absolument convaincue par l'homéopathie.
Dominique Dupane, j'ai envie de vous répondre, Agnès.
Vous savez, il y a une étude dont j'ai jamais retrouvé la trace, mais peut-être que Monsieur Lemoine me dira comment faire. C'était, on donnait à des infirmières des antidouleurs pour leurs patients dans une maison de retraite. Et on leur disait, c'est très puissant, mais ça donne la diarrhée. Et donc, les patients n'étaient pas au courant. Et au bout d'un mois, elles ont rendu le comprimé en disant, écoutez, ça marche super bien, mais il y a de la merde partout, on en a marre, donc reprenez votre truc. Donc, vous voyez que c'est par personne interposée, c'est fréquent aussi.
Docteur Chantal Chemla-Boukara.
Je peux juste témoigner de ma pratique. Lorsque je donne un médicament, adapté aux patients, si je me trompe de médicament, il ne se passe rien. Le patient revient et me dit « rien n'a changé ». Donc, pourtant, il y a eu une consultation qui favorise l'effet placebo, etc. Comme dans toute thérapeutique, comme ça vient d'être annoncé. Par contre, lorsque le médicament est vraiment spécifique et adapté au patient, à ce moment-là, il y a un effet général, global. C'est pour ça que ça fait tant d'adeptes et tant de personnes qui sont passionné et convaincu par l'homéopathie.
François Chaste, professeur François Chaste.
Non, mais j'aurais aimé avoir un exemple que vous me disiez, je sais pas, on a parlé de sulfure ou d'arsenicum ou de pulsatilla, 9, 10, 11, 12 CH, mais il n'y a rien dedans.
Mais,
cher monsieur. Il y a du lactose.
Mais, cher monsieur.
Il n'y a rien du tout.
Vous considérez qu'il n'y a rien dedans en fonction.
C'est le Conseil européen des Académies des sciences, c'est l'Académie de médecine en France, c'est l'Académie des sciences en France. Il n'y a rien. C'est vide.
Écoutez, monsieur, est-ce que vous êtes prêt à m'écouter?
Mais bien sûr.
L'Académie des sciences, toutes les sciences considèrent qu'il n'y a rien en fond. En relation avec ce que l'on sait explorer aujourd'hui de l'infiniment petit. Or, il n'y a rien, il y a des études qui sont faites
actuellement. On verra tout à l'heure ce qu'il y a dans les granules. Dominique Dupagne.
Très brièvement, quand on fait des études scientifiques pour comparer un médicament à un placebo, on fait du double aveugle. C'est-à-dire que le patient ne sait pas ce qu'il prend, mais le médecin non plus, parce que si le médecin sait ce que le patient prend, ça influence le résultat chez le patient. Donc votre expérience, malheureusement, n'est pas démonstrative.
Magali Cotard.
Vous parlez du premier médicament qui n'agit pas et du second qui agit. Est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre ça sur le compte de l'évolution naturelle de la maladie? Et je voulais vous poser une question. Quelles sont, selon vous, les limites de l'homéopathie? Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça ne marche pas? Moi, il y a un homéopathe que j'ai interrogé en off qui m'a dit finalement, ça marche pour toutes les maladies qui peuvent se résoudre d'elles-mêmes. Et puis nous, on donne un petit coup de pouce finalement. C'est ça. Est-ce que vous avez un exemple de maladie qui ne peut pas se résoudre d'elle-même, qui peut être guérie grâce à l'homéopathie?
Oui, bien sûr, il y a un nombre d'exemples incalculables. Par exemple, je vais en donner un par exemple. Les enfants qui viennent à mon cabinet et qui prennent des antibiotiques tous les 10 jours, tous les 15 jours maintenant.
C'est un autre sujet, la surconsommation d'antibiotiques qu'on dénonce par ailleurs.
Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Et à qui on va pouvoir trouver un médicament qui correspond à son état d'être et qui correspond à sa façon d'exprimer ses symptômes? Eh bien, ces enfants ne sont plus malades.
C'était pas
ils
la
ne
question.
Consultent plus.
C'était pas ma question.
La question?
C'est donnez-moi un exemple de maladie qui peut être soignée grâce à l'homéopathie qui ne pourrait pas se soigner toute seule.
L'asthme, par exemple. Une crise d'asthme.
Ah oui.
Une crise d'asthme.
François Chaste.
Je suis catastrophé par
ce que j'entends. Parce que, au fond, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années est né un concept qu'on appelle la médecine par les preuves. Alors que le placebo fonctionne, moi je suis tout à fait d'accord. Que on prescrive trop de médicaments, je suis tout à fait d'accord. Trop de tranquillisants, trop d'hypnotiques, trop d'antibiotiques, bien sûr. Mais pour autant, je pense que lorsque l'on a affaire à une crise d'asthme, il y a plusieurs milliers de morts chaque année en France en raison de ces problèmes liés à l'asthme, eh bien, il faut donner des médicaments sérieux. La crise d'asthme ne se résout pas avec des granules homéopathiques, madame.
Merci beaucoup, Agnès, de nous avoir appelé. Merci beaucoup Agnès de nous avoir appelé. Il est temps de retrouver les choses vues de Charles Pépin. Vous êtes très inspiré par notre sujet du jour.
Alors j'avoue que je bois du petit lait. Pour moi, philosophe, on parle de tout ce qui m'intéresse, notamment de ce que c'est que croire. Mais je ne pense pas que je vais réussir à rétablir la paix sur ce plateau. Néanmoins, voilà, croire. Nous pouvons croire en un Dieu qui serait l'infini de l'amour. Nous pouvons croire en une politique qui serait du bien commun, le souci pur. Croire en une micro-granule de sucre qui nous ferait le plus grand bien. Croire par-delà l'épreuve, par-delà le savoir, par-delà la science. Croire comme on fait de sa liberté l'épreuve. C'est bien là une vie d'homme. Il est beau de savoir comme il est beau de croire. Mais à la condition de savoir que croire n'est pas savoir. Nous pouvons croire en Dieu si cette croyance nous fait du bien. Mais à la condition de savoir que cette croyance n'est qu'une croyance. Nous vivrons alors mieux, mais n'aurons jamais l'idée de tuer au nom d'un Dieu dont nous ne sommes pas sûrs. Nous pouvons croire en la micro-granule si cette croyance nous fait du bien, mais à la condition de savoir que cette croyance n'est qu'une croyance. Nous aurons alors quelque chose à nous mettre sous la langue, mais n'aurons jamais l'idée de nous passer d'une chimiothérapie. J'entends l'objection, mais si je crois en Dieu sans croire qu'il existe vraiment, si je crois en la granule sans croire en son principe actif, je n'y crois pas. Objectons, objection rejetée deux fois. Nous pouvons croire autrement que dans la crédulité, croire en cet autre sens, se dire que c'est possible, se représenter cette possibilité, pencher de ce côté-là pour voir, parce que ça ouvre un champ, et l'esprit, et le cœur peut-être aussi, comme une proposition, une fenêtre qui s'ouvre, un peu de jeu dans la charnière. Et c'est alors que passe la lumière. Je regarde le monde, sa beauté, la diversité infinie des facettes de l'être, et je me dis que Dieu, peut-être. Je crois et je doute en même temps. Je regarde ces granules et songe à ce terrain de sulfure et de feu dont m'a parlé mon homéopathe, et je me dis que pourquoi pas. Entre les mirages régressifs de la crédulité et les griffes du rationalisme étriqué, il y a place pour une autre façon de croire. Croire comme un adulte, ou comme croit au Père Noël un enfant de 6 ans, non pas 2 ans, mais 6 ans. Il sait que le Père Noël n'existe pas. Il sait aussi que ça lui fait du bien d'y croire encore un peu, encore un mois ou deux. C'est une vie d'homme qui commence. Il croit ce qui l'arrange, et il a bien raison. Cet enfant va grandir. Le jour du bac philo, il aura un gros rhume. Il sera content de croire en la vertu des granules magiques. Ça l'arrangera d'y croire. Alors les granules marcheront. Elles marcheront comme un signal. Elles mettront son corps en marche et son corps guérira tout seul. L'animal humain est ainsi fait. Il n'a pas besoin de croire dur comme fer pour que cette croyance lui fasse de l'effet. Il peut croire en douceur. Il peut croire en doutant. Croire comme un pourquoi pas. Vous me direz que ce n'est pas croire vraiment. Je vous répondrai que c'est croire autrement. C'est pencher, mais sans tomber. C'est croire avec de vrais granules de doute dedans.
Les choses vues de Charles Pépin cette semaine. Dominique Dupagne, on parle de croyance dans l'homéopathie. Le propre d'une croyance, c'est d'être indémontrable, irréfutable, selon les critères de la scientificité du grand philosophe Karl Popper. La réfutabilité, selon des critères de la scientificité?
Enfin, on peut avoir de la croyance dans l'efficacité de la médecine scientifique, hein, et elle est fondée par des preuves, si vous voulez. Mais simplement, quand on croit, là, quand ça devient de la foi, c'est-à-dire qu'on croit par principe, par, comme on dit pour les films de science-fiction, par suspension consentie d'incrédulité, j'aime bien cette expression, bon, à ce moment-là, c'est tout un autre débat.
Allez, on s'intéresse dans quelques instants à ce qu'il y a dans les granules homéopathiques. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Précède la chaleur, l'élixir, la sueur.
10h47 et on se demande si l'homéopathie n'est qu'un simple effet placebo. On vient d'entendre là Canine qui interprétait Jardin. Question, témoignage au 01 45 24 7000.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Pensez-vous que depuis 38 ans, je puisse au quotidien mentir à mes patients en sachant que mon traitement était inefficace et que c'est uniquement ma seule présence et ma seule intervention qui puisse guérir ce patient, franchement. Et l'homéopathie, elle existe depuis 200 ans. Si elle avait reposé uniquement sur de l'illusion ou sur un effet placebo, je pense que ça ferait longtemps qu'on ne parlerait plus d'homéopathie.
À ce jour, l'effet placebo est en tout cas la seule explication scientifique admise. Doit-on dans ces conditions maintenir le remboursement de l'homéopathie ? Doit-on dépenser 129 millions d'euros par an pour un placebo ?
Extrait du documentaire Homéopathie, bientôt la fin, qui sera diffusé ce soir sur France 5. Alors, quels sont les fondements de l'homéopathie ? Docteur Chantal Chemla-Boukara, on me reproche sur la page Facebook de ne pas vous laisser aller au bout de vos phrases. Alors là, on va vous laisser aller au bout de vos phrases. Dites-nous, quelles sont les règles fondamentales ? Il y a le principe de similitude, de personnalisation et de dilution. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Et de globalisation. Je vais juste revenir.
J'aimerais que vous me répondiez les grands principes de l'homéopathie. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là.
Je vais vous répondre. L'homéopathie est basée effectivement sur ces trois principes que vous venez de citer. La loi de similitude, qui n'a pas été dogmatiquement imaginée par Hahnemann, mais prouver et trouver expérimentalement.
Qu'est-ce que le principe de similitude ?
Alors, le principe de similitude, c'est qu'une même substance est capable de provoquer chez une personne qui n'est pas le malade un état, un tableau, et de guérir chez une personne malade le même tableau, un tableau semblable. Est-ce que c'est clair ? Je vous donne un exemple très précis. Une piqûre d'abeille va vous donner des gonflements, des rougeurs, etc. Lorsque vous rencontrez chez un patient un état inflammatoire qui a les mêmes caractéristiques, eh bien vous pouvez donner cette dilution d'abeille. Donc ça, c'est la similitude. Elle n'a pas été sortie du chapeau, elle a été expérimentée par Samuel Hahnemann avec la quinine, comme ça a été indiqué. Deuxième chose, effectivement, il y a la dilution. Les expérimentations qui se sont faites tout au long, pendant des années, avec Samuel Hahnemann, risquaient d'être dangereuses pour les patients. Donc on a dilué les substances. Mais en les diluant, on s'est rendu compte qu'en les diluant et en les dynamisant, c'est-à-dire en les secouant, il se passait quelque chose à l'intérieur du substrat qui déployait l'action des remèdes homéopathiques. Juste une chose par rapport au fondement, c'est important. Je voudrais juste rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'homéopathie agit comme une information, comme un signal, comme vous venez de le dire, qui met le corps en mouvement. Donc ça passe par une réaction de l'organisme vers la guérison. Mais le signal, s'il n'est pas juste, s'il n'est pas reconnaissable par le patient, il ne se passe rien.
Magali Cottard, vous avez essayé de comprendre ce principe de dilution. Vous montrez comment sont fabriquées les fameuses granules aux formules parfois ésotériques, avec des ingrédients souvent surprenants.
Oui, parce que souvent les gens confondent l'homéopathie avec la phytothérapie, pensent que c'est uniquement une médecine qui soigne par les plantes. Alors il y a des plantes dans les granules, c'est à peu près je crois la moitié des souches. Mmh. Et puis pour le reste, on trouve des animaux entiers comme l'abeille, parfois des venins, il y a même des sécrétions de malades. Alors ça c'est très très rare, mais ça arrive. On a aussi des produits chimiques et des poisons. Donc c'est vraiment une médecine toxique à la base, qui est censée provoquer justement des symptômes. À la base, bien sûr, et ensuite, comme évidemment, si vous donnez ça à un malade, il va s'aggraver. Hahnemann a eu l'idée de diluer, et quand il reste plus de principe actif pour donner ces symptômes-là, bah, il estime que ça guérit. C'est sur cette base que l'expérimentation.
Prenons l'exemple de l'oscillococcinum, un médicament censé prévenir les états grippaux. Les souches homéopathiques, ce sont de ces granules, c'est du foie et du cœur de canard de Barbarie, c'est ça ?
Oui, alors la grande question, c'est est-ce que ça reste de l'homéopathie ? Les homéopathes homéopathes ne sont pas d'accord sur ce sujet.
On est d'accord,
donc l'oscillococcinum, c'est donc du foie et du cœur de canard qui sont dilués à la 200e cas. C'est un vocabulaire un peu compliqué, mais qu'on explique dans le reportage. C'est dilué 200 fois et au final, il nous reste une goutte du produit de départ dans l'équivalent du système solaire. Donc effectivement, en termes de dilution, c'est très compliqué d'expliquer, même si la dynamisation passe par là, même si on secoue à chaque étape, qu'il reste un message dans ces granules. Et la plupart des gens qui prennent de l'oscillococcinum ne le savent pas. Et je suppose aussi qu'il y a des végétariens parmi les gens qui prennent de l'oscillococcinum qui ne le savent pas.
Et certains avancent une théorie de la mémoire de l'eau, popularisée par Jacques Benveniste dans les années 80.
Oui, et elle reste très ancrée aujourd'hui, alors qu'il a été démontré que cette théorie de la mémoire de l'eau, à l'heure actuelle, Madame Chemla, ne repose sur rien. Les gens disent, ah ben si, il y a un message qui reste en mémoire dans l'eau quelque part. Pas du tout. Cette équipe, justement, ce chercheur a été un chercheur déchu, puisque finalement, on s'est rendu compte que son étude avait probablement été manipulée, au final, n'avait pas de résultat.
Professeur François Chaste.
Oui. Alors, concernant la mémoire de l'eau, ce qui est assez amusant, c'est que dans les ateliers des laboratoires Boiron, on fait tout pour dessécher au maximum les granules homéopathiques. Donc, il n'y a pas un poil de traces d'eau dans les granules homéopathiques. Alors, on se demande comment la mémoire de l'eau pourrait être transmise par des granules qui n'en contiennent pas. Sur oscillococcinum, je rappelle quand même l'histoire pas banale de ce médicament. Dans la foulée de l'épidémie dramatique de grippe espagnole de 1918-1919, un médecin, le docteur Roy, trouve sous l'objectif de son microscope des petits objets qui sautillent sous l'objectif et qu'il va appeler des oscillocoques. Ce sont des bactéries, dit-il, qui sont issues de ce cœur de barbarie qu'il a trituré dans un mortier. Et puis cet oscillocoque, il va se dire, on va le présenter comme étant un remède de la grippe espagnole. Ça marche bien. Et aujourd'hui, c'est la première spécialité homéopathique commercialisée en France sur la base d'une escroquerie. C'est du charlatanisme total. De la même manière que ce que l'on appelle les vaccins homéopathiques, genre influenzinum, sont fondés sur la dilution au milliardième de milliardième du vaccin que les laboratoires pharmaceutiques produisent chaque année. Donc on dilue au milliardième de milliardième le vaccin sous-cutané pour en faire un vaccin homéopathique. C'est ridicule. C'est là qu'on atteint le charlatanisme.
Réponse de Dominique Dupagne et de Chantal Chemla-Boukara.
Très brièvement, je reprends encore. On est en train de se demander si Dieu existe, si vous voulez. Est-ce que c'est le débat qui est vraiment pertinent? Mais en tout cas, dans les théories, il y a souvent ce qu'on appelle des mystères. Quand on comprend pas, on dit c'est un mystère. Comment est-ce que le corps du Christ peut être dans une hostie? On dit c'est un mystère. Eh bien, la mémoire de l'eau, c'est comme les mystères qui essayent d'expliquer l'inexplicable.
Chantal Chemla-Boukara.
Oui,
réponse à François Chaste, quand même.
Oui, alors attendez, expliquer l'inexplicable. Bon, vous avez omis de citer les derniers travaux de Montagnier, quand même, qui sont en train de réhabiliter
volontairement
aussi la mémoire de l'eau.
Oui, c'est
ok. Je voudrais revenir sur oscillococcinum. Ça n'est vrai limité. L'homéopathie à oscillococcinum, c'est absurde. L'homéopathie est vraiment, quand on choisit un médicament, c'est parce qu'il y a un état d'être particulier du patient qui a une grippe. Donc on va adapter le médicament à cette façon d'être
et de
vivre.
Donc c'est pas un bon médicament, vous
donc
êtes
ça
d'accord
n'est pas, mais... Ça n'est pas de l'homéopathie qui est basée sur la spécificité et sur l'originalité du patient. C'est pareil, il faut qu'il y ait deux tableaux qui se correspondent.
De personnalisation, voilà.
Ouais, je parle de personnalisation et de globalisation.
D'ailleurs, le troisième pilier de la médecine homéopathique, c'est la personnalisation. Magali Cotard, dans votre film, on assiste à une consultation homéopathique qui est assez intéressante dans l'approche du patient, plutôt centrée sur le malade que sur la maladie.
Et ces consultations sont vraiment passionnantes. Franchement, autant je suis très critique à l'égard des granules, autant cette médecine homéopathique est passionnante, intéressante, et je conseille à tous les médecins de s'inspirer des homéopathes. L'homéopathe va faire le tour du malade, va poser des questions impressionnantes qui vont l'amener, je le pense, à un meilleur diagnostic que la plupart des autres médecins. Je dis pas que les autres médecins sont pas bons, attention. En revanche, la seule critique, c'est que pour moi, toutes ces questions sont posées dans un but, c'est de trouver le bon médicament qui, selon moi, n'est basé sur rien. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses très très bonnes dans cette médecine, et c'est aussi pour ça que les patients y reviennent, et ils ont raison.
Béatrice nous dit que l'homéopathie fonctionne aussi parce que les médecins homéopathes prennent le temps et ont plus d'empathie envers leurs patients. Il serait temps que les médecins allopathiques fassent de même. Dominique Dupagne.
Tout à l'heure, on a parlé de mensonges. Un médecin disait, mais j'y crois. Il est évident que les homéopathes sont sincères. Ils croient à l'homéopathie, sinon ça marcherait beaucoup moins bien.
Patrick Lemoine.
Je pense que c'est pas sur le terrain de la pharmacologie et de la science que l'homéopathie doit se battre. La seule vraie question, c'est pourquoi ça fait du bien et pourquoi ça marche si souvent dans les domaines où la médecine classique ne fonctionne pas. Et ça a été assez bien démontré pourquoi l'homéopathie a du succès. Premièrement, ils prennent plus de temps. Deuxièmement, ils prennent un petit peu plus de sous. Troisièmement, ils considèrent les gens comme des êtres humains et non pas un assemblage d'organes comme fait si souvent la médecine de spécialité. Quatrièmement, ils sont bienveillants. Cinquièmement, le plus important, ils croient à ce qu'ils font. Sixièmement, ils partagent leurs connaissances. Septièmement, ils ont des noms tellement exotiques et des formes tellement ésotériques qu'ils réintroduisent la magie, mais de manière éthique. C'est ça l'homéopathie, la bienveillance, le temps et l'autocroyance.
Réponse rapide, est-ce qu'on doit dérembourser les médicaments, les traitements homéopathiques? François Chaste, on imagine votre réponse.
Je pense que le déremboursement s'impose. Non pas parce que les médicaments homéopathiques coûtent beaucoup d'argent, mais parce que les soins apportés aux malades qui sont traités par homéopathie sont longs. En gros, 20% de plus a été publié dans une revue internationale sur près de 50 000 malades en Allemagne.
Il me reste plus beaucoup de temps. L'homéopathie n'était qu'un placebo, le placebo marche dans 30% des cas, alors qu'elle soit remboursée à 30%, moi ça me choque pas.
Dominique Dupagne.
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. Depuis que les homéopathes ont traîné devant les tribunaux les signataires de la pétition initiale, je qu'il y a une agressivité qui pourrait leur coûter cher, finalement.
Et le Collège des généralistes... Pardon, allez-y.
Oui, quand même, une réponse. Est-ce qu'on s'interroge pour savoir si, effectivement, il y a eu un report des prescriptions sur l'allopathie, sur les effets secondaires, si on déremboursait? Et je pense qu'on n'y gagnerait pas du tout.
Et le Collège des généralistes enseignants estime qu'il faut dérembourser l'homéopathie. Je le cite, il n'y a aucun élément pour justifier encore aujourd'hui le remboursement de ces médicaments. Merci à tous d'être venus pour ce débat très vif. Merci Dominique Dupagne. On vous retrouve tout à l'heure chez Mathieu Vidard, c'est ça?
On parlait du nocebo cette fois-ci.
Exactement. Merci Magali Cotard. Votre doc passe ce soir sur France 5 à 20h50.
Merci
beaucoup Patrick Lemoine d'être venu. François Chaste, merci. Et merci beaucoup Chantal Chemla-Boukara. Demain, on va essayer d'apprendre à vos enfants et adolescents à prendre la parole en public avec Stéphane de Freitas, Romain de Charnes et Valérie Gerlin. Question témoignage au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Sacha Trop et Kevin Pelot. Dans un instant, Nagui et sa bande originale.